Vous nous écoutez à Combattant, il est 13h sur les ondes de radio Nekiluka. Tout de suite, le journal. Une présentation de Providence, jeudi, Orobundi Providence, bonjour.
Bonjour Cyrus, bonjour à tous, les titres de ce journal. Seulement 48 heures pour déguerpir de la voie publique, c'est l'ultimatum lancé ce matin par la police aux commerçants du marché Combattant. La situation humanitaire en Centrafrique nécessite encore une mobilisation internationale. Mankeur Ndiaye, chef de la MINUSCA, déplore la faible mobilisation des fonds. Et puis les douaniers centrafricains multiplient la lutte contre le trafic de liqueurs en sachets à Beloko. Ils ont saisi la semaine dernière plusieurs centaines de cartons de liqueurs en sachets interdites en Centrafrique. Football, AS Tempête Mokaf connaît depuis hier son adversaire pour les préliminaires de la Ligue africaine des clubs champions. Les rouges et noirs affronteront le champion libyen de El Nas de Benghazi. À la une, bientôt une grande opération de déguerpissement des commerçants du marché de Combattant qui bloque le passage sur la grande route. 48 heures, c'est le délai donné à ces vendeurs pour libérer la voie. Une sensibilisation à leur intention s'est déroulée ce matin au sein du dit marché. Elle est organisée par les compagnies nationales de sécurité CNS. Le point avec Rodrigue Leroy-Binga.
Les étalages de commerce sur la route ont toujours caractérisé le marché de Combattant. Plusieurs fois, la mairie du 8e arrondissement a procédé à des opérations de déguerpissement, mais sans succès. Les compagnies nationales de sécurité décident cette fois-ci d'en mettre un terme. Ce lundi, c'est d'abord une campagne de sensibilisation. La mise en garde a duré plus de 2 heures sur les deux bords de l'avenue. Le message est clair, respectez la limite, plus d'installations sur la grande route à partir de jeudi. Colonel Sim Joachim Danigoumandi, directeur de CNS.
Cette route-là est vraiment embourbée par les commerçants du marché Combattant. Et nous sommes venus leur dire que la voie publique, ce n'est pas un lieu approprié pour leurs marchandises. Donc, il n'est qu'à regagner leur place respective. Et ceux qui ne vont pas respecter cet ultimatum, nous serons obligés dans les 48 heures qui suivent de faire une descente encore. Et ceux qui seront repérés ou pris en flagrant délit seront conduits et présentés à la justice.
Pendant ces genres d'opérations, les commerçants jouent souvent au cache-cache avec les policiers. Colonel Sim Joachim promet de ne pas se laisser faire. Tous ceux qui tenteront de fuir ou de regagner ces endroits pendant et après le passage de la police seront poursuivis et arrêtés, leurs marchandises détruites. À la question de savoir qu'est-ce qui sera fait pour que cette opération ne soit pas sans succès comme les autres, le colonel Sim Joachim Danigoumandi répond.
Bon, mais au fait, nous sommes là et comme la mairie n'a pas pu et le commissaire du 8e, nous sommes venus ici en aide pour les appuyer et nous verrons ce que nous pouvons produire. Donc pour l'instant, là, je ne peux pas juger ce que je suis en train de faire.
Beaucoup de commerçants interrogés ont dit avoir retenu le message et promettent de respecter les principes. Toutefois, ils déplorent la saturation du marché qui ne leur offre pas d'espace pour leurs activités. Ils demandent à avoir plus d'espace. Les opérations de déguerpissement démarrent jeudi 25 juillet.
Merci à vous, Rodrigue Leroy-Binga.
Dans la suite de ce journal, Mankeur Ndiaye déplore la situation humanitaire en République centrafricaine. Selon le chef de la MINUSCA, cette situation fait suite à la persistance des abus et violations des droits humains par les groupes armés.
Ceci malgré l'accord politique pour la paix signé entre le gouvernement et ces derniers. Le patron de la MINUSCA affirme aussi que sur 430 millions de dollars promis, soit plus de 215 milliards de francs CFA pour financer l'aide humanitaire, seulement 43% de ce fonds ont été mobilisés. Mankeur Ndiaye encourage la communauté internationale à y penser. Il demande par ailleurs aux groupes armés d'arrêter les hostilités contre les civils. Il est au micro de Jean-Hugues Bagali.
Il convient de noter une hausse inquiétante du pourcentage d'incidents violents, tels que les braquages, qui constituent à peu près 60% des incidents. Notamment dans les sous-préfectures de Bambari, de Bria, de Kagabandoro, le nombre de déplacements reste à un niveau très élevé. Au 31 mai 2019, il y avait plus de 613 031 personnes déplacées et 605 394 réfugiés. Plus d'un centrafricain sur 4 est encore une personne déplacée. L'assistance à ces personnes retournées reste limitée. Donc la RCA a un besoin vital d'une assistance humanitaire massive. C'est extrêmement important. J'en appelle encore une fois au groupe d'armes à respecter leurs engagements par la cessation des hostilités, par la cessation des attaques contre les populations civiles et les convois humanitaires, par les barrières illégales qu'ils érigent, par les taxations illégales qu'ils imposent aux populations. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire.
Eh bien, vous venez là-dessus, vous Mankeur Ndiaye, représentant du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique.
Providence, le personnel soignant du complexe pédiatrique de Bangui peut désormais gérer le stress aux heures de travail.
Oui, sur ici, ils ont été formés la semaine dernière sur la gestion du stress, les techniques de communication avec les patients, mais aussi comment créer de l'harmonie dans le cadre du travail. L'objectif de cette session, selon Flora Samba Pasquero, présidente de l'ONG Oboni, et d'éviter certains dérapages liés à la pression du travail.
Nous avons constaté, en fait, avec le professeur et l'équipe, qu'il y a beaucoup de tensions dans l'hôpital et ça affecte la bonne prise en charge des enfants et l'accueil. Nous avons constaté aussi qu'il y a un peu de la tension au niveau des équipes. Donc le but de cette formation, c'était de mettre au courant que nous avons tous du stress, que le stress peut être néfaste pour nous, d'où l'intérêt de travailler sur la gestion du stress, tout travailler sur comment on peut communiquer et comment créer une harmonie finalement dans le cadre du travail pour éviter ce que les Américains appellent le burn-out ou la dépression, facture de compassion liée au travail. Je pense que oui, en tout cas, tous les 5 groupes que j'ai reçus ont trouvé ça exceptionnel. Ça les a soulagés, ça leur a permis justement de mettre des mots sur des sentiments, sur des sensations. Donc ils ont trouvé ça positif de ce qu'ils m'ont dit.
Cette formation sur la gestion du stress a été organisée par le complexe pédiatrique de Bangui en partenariat avec l'ONG Oboni.
Direction présent, la ville de Bossangwa où Lagda et Likra poursuivent leur prospection sur la menace qui représente les chenilles légionnaires.
Après la ville de Boire, une mission conjointe était la semaine dernière à Bossangwa et au village Sombé, village situé à 27 km sur l'axe Bozoum. C'est pour prodiguer des conseils aux producteurs de maïs et autres céréales victimes d'attaques de ces mollusques. Samson Ngarsem, directeur du département d'appui à l'ICRA, donne des précisions sur cette mission à notre correspondant Raphaël Nganari.
Nous avons reçu des appels par rapport à l'attaque d'une chenille qui attaque le maïs. Il était question qu'on se déplace ici pour voir, se constater effectivement, évaluer les dégâts et faire des propositions possibles de lutte contre ce ravageur. C'est une chenille qui attaque plus de 80 espèces de plantes. Et cette chenille est apparue en Afrique dans les années 2016. Et son aire d'origine, c'est les Amériques. On peut la gérer en adoptant certaines techniques de lutte qu'on appelle la gestion intégrée. Quand on parle de la gestion intégrée, ça veut dire qu'on combine toutes les techniques possibles pour pouvoir maîtriser le ravageur à un niveau où il cause moins de dégâts. Cette chenille a ses ennemis naturels, c'est-à-dire des insectes qui luttent contre cette chenille également. Il faut gérer aussi les ennemis naturels pour pouvoir favoriser leur efficacité à combattre ce ravageur. Et ce qu'on préconise beaucoup plus, le respect des itinéraires techniques et l'utilisation des pesticides botaniques.
Samson Garsem, directeur du département d'appui à l'ICRA sur Radio Ndekiluka.
De Bossangwa, nous nous rendons à Beloko pour parler de cette lutte contre la liqueur en sachet menée par les douaniers.
Ils ont saisi déjà plusieurs milliers de cartons de cet alcool dont la consommation nuit à la santé. Malheureusement, certains militaires se livrent aussi à cette pratique. Correspondance de Daniel Bilimbari à Beloko.
Ce sont des milliers de cartons de boissons en sachet qui sont en train d'être interceptés depuis juin dernier par les agents de douane de Beloko. Ces opérations ont commencé sur certains opérateurs économiques de Cantonné qui sont tous tombés en faillite après la saisie de leurs marchandises. Selon les responsables du service de douane de Beloko, les militaires de brigade économique sont aussi doués dans ce trafic. À titre d'illustration, le mardi dernier, ils ont intercepté des centaines de cartons de ces boissons frélatées appartenant à ces militaires. Pour le service de douane de Beloko, laisser passer ces produits serait contribuer à détruire la jeunesse. Beloko, Daniel Bilimbari, Radio Ndekeluka.
Et puis les fonctionnaires retraités de l'ENERCA entendent améliorer leurs conditions de vie providence.
Ils veulent assister ceux qui sont nouvellement admis à la retraite à constituer non seulement leur dossier pour les pensions et allocations familiales, mais aussi porter secours mutuellement en cas de difficultés majeures. Ces actions sociales déjà entamées depuis 2 ans ont été rendues publiques lors d'une assemblée générale de leur association tenue les 19 et 20 juillet dans l'enceinte de la dite institution à Bangui. Albert Yomba Eyamo, président de l'association des retraités de l'ENERCA avec Bonaventure Ngomba Katikiro.
Depuis 52 ans que l'ENERCA a vu le jour, il n'y a jamais eu une association de retraités de l'ENERCA. Ce qui fait que lorsque quelqu'un va à la retraite, il est perdu de vue. On ne sait pas ce qu'il devient, est-ce qu'il est malade, est-ce qu'il est mort, on ne sait pas. Et donc par l'action que nous sommes en train de mener aujourd'hui, c'est de pouvoir rassembler tout le monde de manière à ce que lorsque nous sommes ceux qui sont à la retraite puissent se retrouver de temps en temps pour suivre la vie de chacun d'entre nous. Évidemment, nous voulons d'abord aider les nouveaux retraités à pouvoir constituer leur dossier de manière à pouvoir bénéficier rapidement de leur pension. La deuxième des choses, c'est pouvoir rassembler tout le monde de façon à ce que lorsqu'il y a un d'entre nous est éprouvé, que nous puissions l'assister. Et troisièmement, dans le cas où le retraité, par exemple, a quelques difficultés que ce soit, nous soyons prêts à lui venir en aide. L'issue de l'assemblée nous permettra de redynamiser l'association. Car nous avons existé et les statuts prévoient que le bureau qui a mis en place existe. C'est un mandat de 2 ans renouvelable, une seule fois.
À Actualité internationale, une vaste opération de ratissage des terroristes menée par les forces de l'ordre s'est déroulée cette nuit au Kenya, précisément à la frontière avec la Somalie.
Des éléments des forces de sécurité cherchent des terroristes Shabab qui se seraient infiltrés sur le territoire kenyan. Selon nos confrères de la presse internationale, la circulation autour de villages comme Ras, Kamboni, Kionga ou Ishakani, situés de part et d'autre de la frontière, serait limitée.
Et puis en France, le sous-marin français, la Minerve, disparu en 1968, a été retrouvé au large de Toulon.
L'épave du sous-marin français, la Minerve, disparu en 1968 avec 52 hommes à bord, a été retrouvée au large de Toulon, a annoncé lundi sur Twitter la ministre des Armées, Florence Perly, selon nos confrères de Radio France Internationale. Nous venons de retrouver la Minerve. C'est un succès, un soulagement et une prouesse technique. Je pense aux familles qui ont attendu ce moment si longtemps, a tweeté la ministre. Ouvrons à présent la page des sports. Et du football, le champion de la Ligue de Bangui, AS Tempête Mokaf, connaît depuis hier son adversaire pour les préliminaires de la Ligue africaine des clubs champions juvéniles.
Les Rouges et Noirs affrontent le champion libyen de El Nasr de Benghazi. La manche aller aura lieu à Bangui entre le 9 et le 11 août et le retour deux semaines plus tard en Libye. Le vainqueur de ces deux rencontres disputera la manche avec celui de la double confrontation entre Brikama United de Gambie et les Marocains du Raja Club Atlético.
Au football encore juvénal, les éliminatoires de la Coupe Renaissance se poursuivent dans les arrondissements de Bangui.
Cet après-midi à 15h, National Islamique du kilomètre 5 va affronter Kina sur le terrain de Sagbadan en quart de finale. FC Bibale a battu hier ABC Sport 4 buts à 2 en quart de finale aussi. Toujours dans le 3e arrondissement, cette fois-ci à l'école Kudoku, FC Siriri sera face au Racing Club de Dombia. À Maya Maya dans le 6e, CS Vipère a éliminé hier en demi-finale Moto Taxi 1 but à 0. Cet après-midi, la deuxième demi-finale opposera FC Emmanuel à FC Vitamine.
Le basketball, fin hier des activités du camp de haut niveau organisé à Bangui du 16 au 21 juillet.
Des matchs de gala de basket, des concours de danse ont été au menu de cet événement sportif au Palais des Sports. Une initiative de l'association des enfants de Centrafrique debout en partenariat avec la Fédération Centrafricaine de Basketball et l'ambassade de France. 10 jeunes ont été sélectionnés et vont participer à un tournoi panafricain au Bénin en août prochain.
Merci à vous, Juvenal, pour cette page des sports et c'est la fin de ce journal en français.